Alors que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous et chacun d'entre vous. Il y a des hommes et aussi des femmes qui, en passant dans l'histoire, ont marqué le monde, et des hommes et des femmes chrétiens qui ont marqué l'Église. Et sans ces hommes et sans ces femmes, l'Église aurait été tout autrement. Je sais que c'est le cas de chacun des anciens qui est dans cette assemblée et qui a précédé dans cette assemblée, qui ont rendu un témoignage en désirant être fidèles et marquer l'Église du sceau du Seigneur. Alors j'aimerais parler d'un de ces hommes ce matin, dans un instant. Cet homme, je vais vous cacher un petit peu son nom réel c'est Joseph. Alors il n'y a pas de prix pour ceux qui devinent de qui il s'agit. N'allez pas chercher dans vos Bibles pour l'instant. L'évangéliste Moody a dit ceci, « Le monde n'a jamais vu ce que Dieu pourrait faire par le moyen d'un homme entièrement consacré à lui. » Le monde n'a jamais vu, disait Moody, ce que Dieu pourrait faire avec un homme, sous-entendu une femme, qui est consacré totalement à lui. Et Moody a continué, et je voudrais être cet homme-là. Je voudrais être cet homme-là. Alors l'homme Joseph dont j'aimerais vous parler était de cette trempe-là. Il avait compris que marcher avec Jésus-Christ, c'était tout ou rien. J'aimerais dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore saisi cela. Marcher avec Jésus-Christ, c'est tout ou rien. J'entends des gens qui me disent, mais on va tous se réveiller au moment de la persécution. Donc vous faites des réunions de prière spéciales pour la persécution? J'espère que non, parce que moi j'aurais peur de la persécution. C'est pas si facile que cela. Mais marcher avec Jésus-Christ, c'est tout ou rien. Cet homme Joseph venait de l'île de Chypre. Et l'île de Chypre, à l'époque, était très riche. C'était un pays qui exportait toutes sortes de choses. Le vin, l'huile d'olive, les graines de toutes sortes. Et les personnes qui habitaient cette île, qui avaient des exploitations, étaient riches, avaient beaucoup de moyens. Et Joseph avait appris que l'Église du début, la première Église, mettait en commun, tout en commun, pour subvenir aux besoins des uns et des autres. Et il était touché, un homme riche. Puis-je ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que mon expérience de serviteur de Dieu, c'est que ceux qui sont touchés ne sont pas très souvent des riches. Des riches chrétiens veulent garder tout ce qu'ils ont pour l'utiliser au ciel. Vous suivez bien? Tandis que ceux qui donnent et qui donnent le plus sont souvent les pauvres. Intéressant que dans le Nouveau Testament, comme nous allons voir, il y avait une veuve qui n'était pas riche, elle était pauvre. Vous vous souvenez de ça? Puis elle a donné tout ce qui lui appartenait. Cet homme Joseph mettait tout à côté. Il a vendu un champ dans ce pays riche, un champ, et tout l'argent qu'il a récolté, il a apporté aux pieds des disciples pour que ça serve. À cause de son attitude, les chrétiens lui ont donné un surnom. Alors ça y est, maintenant vous pouvez le voir, Barnabas. Alors vous voyez de qui il s'agit. Barnabas, ce qui voulait dire courage. Il faut analyser ça un peu plus. Un homme qui avait le courage d'encourager. J'espère que vous vous souviendrez de ça. Hein? Un homme qui avait le courage d'encourager. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ce serait bien qu'on encourage les autres, mais ils n'ont jamais le courage de le faire. Ils restent bien cloués à leur chaise. Mais cet homme était un homme qui encourageait les autres. Et vous pouvez voir ça, comme je cite, dans Actes 4 et 36. Nous verrons ça tout à l'heure. La deuxième partie de ce que je vais vous partager parle aussi de Barnabas. Mais Paul, entre-temps, a quitté la ville de Damas. Vous vous souvenez qu'il s'est converti, vous étiez là. Il s'est converti sur le chemin de Damas parce qu'il a eu une révélation de Jésus-Christ. Et j'espère que vous vous êtes converti parce que vous avez eu une révélation de Jésus-Christ. C'est peut-être pour ça que quelques-uns ne donnent pas l'impression d'être convertis encore. Ils n'ont pas eu cette révélation personnelle, intime, de la réalité de Jésus-Christ. Et cet homme a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, comme vous vous souvenez, et puis il a passé son temps pour montrer aux Juifs que Jésus était vraiment le Messie. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait dire. Annoncer les vérités de l'Évangile n'est pas très populaire aujourd'hui. J'ai reçu une lettre du réseau FEF, dont on fait partie, je crois, l'Assemblée ici. Nous encourageons à écrire tous à nos maires, aux autorités municipales, pour leur dire qu'on prie pour eux. Je n'ai jamais dit ça au maire de Thoiry, mais priez pour moi pour que je puisse le dire cette semaine. Je me souviens que je l'ai dit pour le maire de Vitrolles. Là, j'ai mis mon bras autour de ses épaules. C'était un avocat à l'époque. J'ai dit, maître, vous savez qu'on prie pour vous. Il s'est arrêté. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Et puis, j'ai dit qu'on priait pour lui. Il a eu une toute autre attitude par la suite. Alors, Paul, donc, a rendu témoignage du fait que Jésus-Christ était vraiment le Messie. Et ça n'était pas populaire. L'Évangile n'est pas populaire. Cette semaine encore, j'ai distribué des annonces avec le tampon de l'Assemblée du CEP dans la ville de Thoiry. Et il y avait tellement de boîtes qui avaient l'affiche « pas de pub ». Alors j'ai prié, est-ce que c'est de la pub ou c'est pas de la pub? Moi, je crois que c'est pas de la pub. Et enfin, je me suis soumis quand même. J'ai demandé au Seigneur que ceux qui refusaient, que je puisse les rencontrer devant leur maison. Alors ça m'est arrivé une ou deux fois et j'ai pu donner le traité directement. Mais les gens n'aiment pas qu'on parle de Jésus-Christ. Et cet homme, Paul, est arrivé à Jérusalem et les disciples avaient de la peine à croire qu'il s'était vraiment converti. C'est formidable quand il y a des nouveaux chrétiens. Les nouveaux chrétiens, ils nous bousculent, nous les vieux chrétiens. Je ne suis pas vieux, moi. Moi, je refuse ça. Jean-Paul m'a appelé vieux ce matin et je vais faire mon petit compte avec lui tout à l'heure en l'embrassant trois fois quand même. Mais les vieux chrétiens comme vous et moi, on est bousculés quelquefois par les jeunes chrétiens, par ceux qui font partie de l'équipe de louanges. Mais gloire à Dieu pour ça. On a besoin d'être bousculés. Et si vous ne voulez pas être bousculé, demandez au Saint-Esprit de ne plus travailler dans ta vie. Et Paul est descendu à Jérusalem, où il devait continuer sans doute de parler du Seigneur de cette manière, mais les disciples ne voulaient pas lui faire confiance. Et je marque dans mes notes, pour la deuxième fois, alors Barnabas. Notre Barnabas se pointe de nouveau, comme un homme, une femme qui sème le courage, qui encourage, se pointe juste au moment où il le faut. Juste au moment où il le faut. C'est important cela. Quand je lis ce que Moody a dit, le monde n'a jamais vu ce que c'est que d'avoir un homme vraiment consacré à Dieu. Et Moody qui dit, je voudrais être cet homme-là. Vous savez, bien aimé, j'ai réfléchi à ça ces jours-ci, avec le départ de notre cher ami Freddy. Et puis, Hélène était tellement au fond du lit, ça va mieux un peu maintenant, mais tellement au fond du lit que je me suis réveillé plusieurs fois pour voir s'il était encore là. Et le Seigneur m'a dit, mais si elle était là, est-ce que tu me suivrais autant qu'avant? Je ne vous cache pas que j'ai du mal à donner la réponse. J'ai eu du mal à donner la réponse. Quel est le trésor qui est le plus cher à mon cœur et à ton cœur? On a chanté tout à l'heure ce chant qui me touche chaque fois que je l'entends. Et j'aimerais bien, je le dis d'avance pour que les amis ne soient pas pris au dépourvu, j'aimerais bien qu'on rechante la dernière strophe à la fin du culte. Le roi serviteur. Le roi serviteur. Alors Barnabas, il avait confiance en l'œuvre du Seigneur pour le nouveau converti. le gars qui avait menacé les chrétiens, qui voulait les tuer. Mais ce gars-là s'est converti. Hein. Dites-moi, vous avez jamais prié pour Jean-Marie Le Pen? Oh, celui-là, il ne se convertira jamais. Mais qu'est-ce qu'il sait? Hein? Qu'est-ce qu'il sait? Est-ce que vous avez prié pour M. Hollande et pour M. Sarkozy? Moi, je vous ai dit l'autre jour, j'ai saisi mon courage et j'ai écrit à M. Sarkozy parce que je pensais que c'était mon devoir en tant que chrétien de lui écrire, de l'encourager pour quelque chose. Est-ce que nous croyons que ces gens-là peuvent se convertir? Sinon, ils ne vont jamais se convertir. Je vous le dis. Hein? Et si vraiment on prie, comme la réunion de prière jeudi dernier, qui était tellement encourageante, là où a mûri les chrétiens de toutes sortes d'origines, là, on priait. Il faut qu'on s'unisse dans la prière pour que notre pays soit touché. Et Barnabas, il était convaincu qu'il y avait une œuvre claire dans la vie de Paul. Et je cite le passage du début des Éphésiens. Vous aussi, après avoir entendu la bonne nouvelle, vous avez mis votre confiance en lui. C'est votre cas, jeune chrétien? Après avoir entendu la bonne nouvelle, tu as mis ta confiance en lui jusqu'à un certain point? Ou vraiment ta confiance en lui au début de cette année 2012? Moi, je ne pensais jamais voir 2012, ce n'est pas pour vous. Hein. Je me souviens que j'ai passé 2000 à 2001, les premières nuits de ce siècle, dans le petit hôtel là, pas loin d'ici, en route pour une convention à Lausanne. Je ne pensais jamais arriver à 2012. Et on y est, en 2012. Et est-ce que nous marchons davantage avec le Seigneur? Et par votre foi, dit Paul, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Gage de si grandes promesses. Si on veut que les promesses se réalisent, il faut laisser le Saint-Esprit nous sceller. Dire au Seigneur, je t'appartiens, Seigneur. Je ne veux pas revenir en arrière. Même si je tremble, comme j'ai tremblé en donnant la réponse au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi, Hélène, qu'on puisse partir le même jour, en même temps, tous les deux. Mais, Seigneur, si ce n'est pas cela, j'ai besoin de toi, Seigneur, et de mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment je vivrai cela. J'admire le courage de mon frère Freddy, quand nous sommes allés le voir comme vous êtes allés le voir, après le départ de Paulette. Il ne s'est pas plaint. Il était dans la paix du Seigneur. Et le Seigneur nous pose la question. Alors, ce qu'il fait, Barnabas, c'est qu'il le prend chez lui. Il le prend chez lui. Et est-ce que nous sommes ouverts pour prendre les nouveaux chrétiens chez nous? S'il y a quelqu'un qui n'est jamais venu au culte qu'il a ce matin, j'aimerais vous dire qu'on vous aime. On ne veut pas vous laisser seul. Est-ce que quelqu'un va vous inviter chez eux ce dimanche, comme Barnabas a invité Paul chez lui? Et puis il a rendu un témoignage de ce qui s'est passé dans sa vie, de comment il s'était converti. Et la Bible dit, Paul, allez et venez avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu Claude Trotter, hein? Mais il était engagé avec les chrétiens. Il allait dans les rencontres. Moi, j'étais très encouragé jeudi soir. Pareil qu'il y avait 51 personnes. Je n'ai pas compté, c'est quelqu'un d'autre qui a compté, qui l'a dit publiquement. Mais je me suis dit, dimanche matin, on serait peut-être plus que 51 au culte. Certaines personnes ne peuvent pas venir parce que c'est le soir. Mais, bien-aimés, sommes-nous prêts à prier avec les autres chrétiens? Sommes-nous prêts cette année qui commence à dire, mais la réunion de prière, la réunion de la cellule, la réunion d'études bibliques, c'est comme la réunion du culte, c'est une priorité dans ma vie. Ce n'est pas un truc que je vais faire si je n'ai rien d'autre à faire. Mais c'est ma place, c'est ta place, c'est la mienne. Je suis reconnaissant d'avoir un chauffeur attitré, Pierre, qui m'amène souvent, ça m'encourage beaucoup. Et peut-être tu as besoin de même de quelqu'un pour vous amener. Et voilà, il rend témoignage de ce qui s'est passé dans la vie. Et Barnabas avait une conviction que ce que le Seigneur avait commencé, il allait terminer. Et j'aimerais vous lire dans Parole vivante, ce que vous allez dire, mais le frère n'est pas très biblique ce matin. J'ai laissé la parole à Philippe qui a lu plusieurs passages ce matin, c'était bien. Mais moi j'aimerais vous lire dans Philippiens 1, dans le précis de notre frère M. Kuhn, et je vais lire les versets 6 et 7 du premier chapitre. Versets 6 et 7, ce sont des versets que nous devrions bien aimer connaître et souligner dans nos Bibles. C'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. Il achèvera son œuvre. J'ai confiance en lui. Il la développera. Tu es d'accord pour ça? Que 2012, le Seigneur aille plus loin dans ta vie? Le Seigneur a commencé pour continuer, qu'il la développera et la rendra parfaite pour le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, qui a attrapé le virus auprès de Barnabas, qui est devenu un homme qui a encouragé, il dit, « Il est juste que j'aie de pareils sentiments à votre égard. Vous me portez toute votre affection. Aussi occupez-vous une place particulière dans mon cœur. Vous êtes tous mes associés. Vous avez pris part aussi bien aux grâces que Dieu m'a accordées qu'aux épreuves qu'il m'envoie. Que je sois enchaîné dans ma cellule, ou que je défende et prêche l'Évangile, vous êtes à mes côtés, vous partagez mes responsabilités et mes privilèges. » Est-ce que nous pouvons dire cela? Il y a des frères et sœurs que nous portons dans nos cœurs, ceux comme Mélanie qui part si souvent en Afrique, comme Jean-Daniel et Pascaline, comme Gérald et Catherine, et comme la famille Ratov de Madagascar, d'autres pour lesquels on est engagé de prier. Est-ce que nous les portons vraiment dans nos vies? Alors Barnabas, dès son arrivée, dès l'arrivée de Paul, il constate la grâce que Dieu avait opérée, acte 11 et verset 23. Ils sont réjouis et ne peut que les encourager à persévérer dans leur décision de suivre le Seigneur. Je m'excuse, j'ai sauté une ligne là. Il prend Paul chez lui, il l'encourage, ils rendent témoignage de lui. Et puis, une troisième occasion, et j'aimerais lire cette fois-ci, dans acte 11, acte de chapitre 11. Je ne vais pas lire tous les passages concernant Barnabas, je laisse un autre pour une autre fois. Mais chapitre 11 des Actes, au verset 19, les disciples qui s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne continuaient d'évangéliser de lieu en lieu. Ils étaient parvenus jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche. Ils n'annonçaient la parole seulement aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche, où ils s'adressaient aussi aux Grecs et annonçaient l'Évangile. Le Seigneur bénit leur initiative, leur accordait sa force, de sorte que beaucoup de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Vous n'avez pas envie de vivre ça? Moi, j'ai envie de vivre cela, que les gens se convertissent après ça, à Thoiry, à Collonges, dans tous les villages que nous représentons. Mais Yannick, Yannick là, bientôt l'église de Jérusalem a pris la nouvelle et on voyait Barnabas à Antioche. Dans certaines traductions, il est dit, bientôt le bruit est arrivé à Jérusalem. Alors, Jérusalem voulait tout contrôler. Je veux dire un petit mot ici. Jérusalem voulait que les autres églises soient semblables à celles d'origine. Mais Dieu ne travaille pas comme cela. L'église de Jésus-Christ est très variée. Nous n'avons pas à nous attendre que l'église d'à côté soit de même, ou la partie de l'église à côté soit la même que nous. Et le contrôle central, chaque fois qu'il y a un contrôle central, ça a tué la vie de l'église. Et moi, je bénis le Seigneur parce que ici à Prévesin, je vais être transparent avec vous. Je suis très, très reconnaissant que cette assemblée dépend du Seigneur et pas d'une organisation quelconque. Je pense que c'est très important, cela. Mais c'est très dur pour les anciens. Ça veut dire que nous devons prier davantage pour eux, pour qu'ils soient éclairés, qu'ils soient courageux, qu'ils soient fidèles. Mais quand on est dans une grande association qui nous domine, ça nous empêche de dépendre du Seigneur. J'en ai fait l'expérience à deux reprises dans ma vie, dans deux milieux différents, et je ne voudrais plus y retourner. Mais je suis très heureux qu'on fasse partie de ce qu'on appelle le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, que la famille des chrétiens évangéliques soit unie. C'est important, indispensable cela, mais qu'on ne soit pas contrôlé par les uns et les autres. Alors les chrétiens, les anciens de Jérusalem étaient inquiets, peut-être qu'ils ne chantaient pas dans ce qu'on chantait quand on était jeunes, les chants de victoire, peut-être qu'ils chantaient dans cet horrible cantique de J'aime l'Éternel, voyez un peu le style. Je me souviens quand je l'ai introduit dans certaines assemblées, c'était la catastrophe, mais maintenant ils utilisent là, c'est formidable. Mais mes amis, n'attendons pas que ça soit exactement pareil. Alors Barnabas arrive, et c'est un homme de courage. Et quand il voit l'œuvre du Seigneur, il est encouragé. Dès son arrivée, il put constater que la grâce de Dieu avait opéré. Ils sont réjouis. Quand on voit la grâce de Dieu qui est son Père, on doit se réjouir, mes amis. J'admets que je suis peut-être un peu plus vieux que la plupart d'entre vous. Je cherche les plus âgés que moi, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et c'est surprenant quelquefois ce qui se pointe chez les plus jeunes chrétiens. Et quelquefois, je dois rester collé à ma chaise et me dire, mais, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce qu'ils ont une autre manière de s'exprimer. Ils sont réjouis, Barnabas. Il ne put que les encourager, persévérer dans leur décision de suivre fidèlement le Seigneur. C'était ça l'important. C'était ça l'important. Et que les jeunes fassent les choses tout autrement, ou même un peu autrement, ou que certains amis de l'Assemblée témoignent un peu autrement, prions pour eux, pour qu'ils soient attachés au Seigneur. Prenons le temps de prier avec eux, de passer du temps dans le Seigneur avec eux pour les encourager. Cet homme, Barnabas, reflétait, bien aimé, l'amour et la consolation du Seigneur. Et je demande au Seigneur que je puisse faire de même. Juste avant de terminer, j'aimerais poser la question, mais à Barnabas. Barnabas, quel don tu as? Quel est le don que tu as, Barnabas? D'abord, la Bible dit que c'était un homme généreux. Je ne sais pas si ça concernait uniquement l'argent, mais il se donnait de son temps, il se donnait de sa personne, il se donnait de son amour, de sa capacité, de ses possibilités, il les encourageait. Ô Seigneur, aide-moi à faire cela. Il se donnait aux autres à n'importe quel prix. Ce cantique dont j'ai parlé tout à l'heure, le roi serviteur, je me souviens de la première fois que je l'ai chanté. Ça venait d'être composé par Graham Kendrick, pour ceux qui connaissent le nom. Et j'étais dans l'assemblée où il allait, une assemblée à Londres, assez grande, environ 1800 personnes. Et j'ai appris que le pasteur, un des pasteurs de cette assemblée, savait qu'il y avait un couple missionnaire qui allait revenir et peut-être s'installer dans le pays. Il revenait sans un centime. Vous ne connaissez pas cet homme, donc je peux parler derrière son dos. Son prénom, c'était Roger. Et Roger a décidé avec sa femme de donner leur propre maison au couple missionnaire qui revenait et d'aller loger n'importe où. Je n'ai jamais oublié ça. Le Seigneur ne m'a jamais demandé ça. Pas tout à fait, en partie, mais pas tout à fait comme cela. Et s'il nous demandait ça, qu'est-ce qu'on ferait? Un couple missionnaire qui reviendra, est-ce qu'ils trouveront une voiture chez nous pour utiliser pendant qu'ils sont là? Un couple de serviteurs de Dieu, dans un passage difficile, est-ce qu'on est là avec eux? Un homme plein de bonté, mais ça c'est la présence du Seigneur, la grâce de Dieu, rempli du Saint-Esprit et de foi. Là où il passait, Barnabas, il ne manquait pas l'occasion d'encourager, de mettre l'autre en valeur. Ça, c'est important. Vous avez été humilié dans votre vie? Et moi, souvent. Quand on arrive à mon âge, il y a des gens qui pensent que le mieux qu'on puisse faire, c'est de nous mettre sur les rayonnages de pièces détachées, ou si jamais on en a besoin. Mais moi, j'ai envie de servir le Seigneur toujours. Et on a envie d'être encouragé. Encouragé aussi. Est-ce que nous sommes prêts à saisir les occasions d'encourager l'autre, de mettre l'autre en valeur pour ce qu'il nous a apporté, pour ce qu'il nous a dit, de conseiller de ne pas éteindre le don que le Seigneur a mis en nous. Il laissait derrière lui une ambiance de paix une fois renouvelée. Nous sommes heureux de voir Sarah ce matin. Je ne vais pas la mettre à contribution, qu'elle n'ait pas crainte, mais je vais mettre sa maman à contribution. Cette semaine, sa maman m'a envoyé une histoire qui m'a tellement parlé que je partage ça avec vous. Sarah qui vient du Liban, qui est derrière là. J'essaie de traduire dans notre langue parce que ce serait plus facile. C'est au sujet d'un petit garçon qui n'avait qu'un sac de chips. Vous voyez un peu le style? Moi, j'aime les chips, moi. Surtout quand il n'y a pas de gluten dedans. Et ce petit garçon, il a dit à sa maman, « Oh, j'ai envie de rencontrer le Seigneur. » Oh, j'espère que nous allons tous dire ça. Hein? J'ai envie de rencontrer le Seigneur. Mais il savait que s'il allait voir le Seigneur, c'était un long voyage. Alors, il a sorti sa valise pour les voyages. Et puis, il a mis 2 ou 3 paquets de chips dans la valise et quelques bouteilles de Coca-Cola. Et puis, il a commencé son voyage. Il a fait environ 300 mètres quand il a rencontré un vieillard. Et ce vieux monsieur était assis dans le parc. Il regardait les pigeons. Ça vous arrive? Peut-être que je suis vieux parce que j'aime bien regarder les pigeons. Il regardait les pigeons. Et puis, le petit gars ouvre sa valise et commence à boire son Coca-Cola quand il voit que le vieillard avait l'air d'être affamé. Donc il ouvre un paquet de chips. Il lui donne des chips. Et le vieillard était content, il sourit et dit merci. Son sourire était tellement gentil que le garçon dit, mais je vais lui donner un Coca-Cola alors. Il en donne. Et il a reçu un sourire en réponse. Et le petit gars a été ravi, ravi. Sur son visage, ça se voyait. Et tous les deux ont passé l'après-midi comme ça en train de manger et de sourire. Mais ils ne se sont jamais parlé. Le soir a commencé à venir et le petit gars s'est rendu compte qu'il était fatigué. Et il se lève pour partir. Et il fait quelques pas. Mais il dit, je me trompe là. Hein? Il retourne, il retrouve le vieillard et il le serre contre lui avec un de ses sourires comme cela. Et puis il repart à la maison. Quand il arrive à la maison, sa maman était surprise. Il avait tellement de joie sur son visage. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui que ça t'a rendu si heureux? Maman, j'ai mangé avec le Seigneur. Avant que sa maman puisse intervenir, il dit, tu sais quoi? Il a un plus beau sourire que je n'ai jamais vu un sourire pareil, celui-là. Entre-temps, le vieillard, il a aussi le visage rempli de joie. Il retourne chez lui. Et son fils était tellement surpris par le regard de joie qu'il dit, tu sais, j'ai rencontré Dieu aujourd'hui. Il est beaucoup plus jeune que je ne pensais. Il est beaucoup plus jeune que je ne pensais. Vous avez compris l'histoire. Aujourd'hui, on sous-estime un petit mot de courage. Peut-être un paquet de chips pour encourager quelqu'un. Une bouteille de Coca-Cola, je ne sais pas quoi. Ta maman n'avait pas mis Coca-Cola, tu ne lui dis pas, elle a mis autre chose, mais je l'ai traduit comme cela. Juste une remarque, quelque chose à faire, un vieillard ou un jeune. Le ministère de Barnabas, est-ce que nous pourrions prier pour que nous ayons tous, chacun d'entre nous, un ministère de Barnabas dans notre assemblée, qu'on soit des hommes et des femmes de courage. Courage pour encourager. Pas aller là où l'ambiance est un peu froide. Mais on y va quand même. On téléphone. On touche quelqu'un. Et on dit, je t'aime. Je t'apprécie. Que le Seigneur nous aide à faire cela. Est-ce qu'on pourrait avoir cette dernière strophe sur l'écran? Et je vous laisse nous diriger avec l'équipe de louanges. Je ne sais pas qui est-ce que le chef chante dans cette histoire-là. Voilà, ça se lève. Est-ce que cette semaine, on peut prier pour qu'on soit des Barnabas, les uns les autres? Si on a eu deux ou trois Barnabas qui m'ont téléphoné pendant que j'étais découragé là, et ça m'a fait du bien, vraiment du bien. On va chanter cette dernière strophe et ensuite Jean-Paul, qui nous encourage par ses annonces, va venir les faire. Merci.